La première,
13h-14h,
l'agence tourisme,
Walid et Marianne Périlleux.
Bonjour à toutes et tous, ravi de vous accueillir sur l'antenne de la première. Bonjour Marianne.
Bonjour Walid, bonjour à tous.
Et comme on dit pardi, c'est samedi.
Mais oui, c'est samedi.
Et comme chaque samedi à la même heure, c'est l'agence tourisme qui vous attend sur la première. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour vous faire voyager. Mais alors quand je dis voyager, ce sera en musique un petit peu,
oui,
aujourd'hui. Hein, au cœur de nos régions, un voyage qui sera, je l'ai dit, en musique. Puisque ce week-end, ici et là, en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est la fête de la musique. Et l'agence tourisme, quoi de plus normal, se met justement au diapason, Marianne.
Mais oui, on vous emmène pour l'occasion dans le Namurois Dinan, au lieu du tourisme en Wallonie, grâce à la Meuse bien sûr, mais également grâce à Adolphe Sax,
ah oui,
l'inventeur du saxophone, inventeur génial. Plusieurs lieux touristiques lui sont dédiés dans la cité dinantaise.
Nous irons aussi à Gouvy en Ardenne luxembourgeoise, surnommé village de la musique grâce à la création il y a plus de 40 ans d'un festival de blues et de jazz à la ferme Madelon. Tous les grands noms du jazz y sont produits et l'histoire n'est pas prête de s'arrêter, c'est moi qui vous le dis, on vous racontera tout ça dans un instant.
Et je me suis pour ma part rendu à Stavelot, en province de Liège, oui, pour y rencontrer Benoît Polis, qui il a fait de la musique son métier, je dirais même plus, il a fait d'un instrument de musique son métier, et cet instrument, c'est l'orgue de Barbarie, c'est un instrument rare et un métier rare que je vous ferai découvrir.
On attend ça avec impatience. Et tiens, en parlant d'instruments, des instruments de musique, on sait, il en existe des milliers dans le monde. Un musée en a fait sa spécialité, c'est le musée des instruments de musique à Bruxelles, en abrégé le MIM, qui demain, week-end de la fête de la musique oblige, sera porte ouverte. On vous en parlera, vous l'avez compris. Ah, il y a des belles notes qui s'improvisent aujourd'hui jusqu'à 14h sur la première. Montez le son et surtout gardez les oreilles sur la tête.
Imaginez une destination où tout est tout près de tout. Visite Wallonia, tout pour s'évader. L'agence tourisme sur la première.
La musique,
oui,
et la musique. J'ai même envie de dire, les musiques sont donc au cœur de l'agence tourisme ce samedi. Et on vous en parle avec notre invité. Il nous vient tout droit du bord de Meuse. Il est avec nous. C'est le Dinantais Alain Crepin, professeur honoraire de saxophone au Conservatoire Royal de Bruxelles, directeur artistique de l'association internationale Adolphe Sax de Dinan, saxophoniste, compositeur. Je pense avoir tout dit. Hein.
Oui,
je peux encore continuer.
Chef de musique militaire aussi.
Chef de musique militaire. Aussi.
Oui.
Ah ben on va découvrir tout ça. Le saxophone m'a tout l'air d'être au centre de votre vie. Depuis quand ?
Depuis l'âge de 11 ans, je veux dire, oui, il représente tout pour moi. Grâce à Adolphe Sax, j'ai eu une vie très heureuse.
Mm-hmm.
Vraiment, quand je passe devant le banc d'Adolphe Sax,
oui,
à Dinan, dans la rue
Sax,
tous les jours, je lui fais un salut amical en lui disant « Merci, monsieur Sax, pour la belle vie que tu m'as donnée. »
Ah ben voilà, effectivement, cap sur la bien nommée Perle de Meuse pour démarrer cette émission. Dinan, où est né le 6 novembre, vous en parliez, en 1814, Antoine-Joseph Sax, mieux connu sous le nom d'Adolphe Sax. Alors Alain, j'imagine que vous connaissez la vie sur le bout des doigts de ce génie musical. Racontez-nous en quoi Sax et Dinan sont-ils liés à la vie et à la mort.
J'ai l'habitude de dire que Adolphe Sax, par son invention, est doublement lié à Dinan. Bon, il est né à Dinan, et alors vous savez que à Dinan, depuis le XIe siècle, le cuivre et le laiton, Dinan était la capitale internationale en fait,
ouais,
du travail sur le cuivre et le laiton, et donc le saxophone, son instrument, l'instrument qu'il a créé, il n'a pas créé que le saxophone, on peut aussi en parler tout à l'heure, mais le saxophone est en fait la matière, c'est un alliage de cuivre et de laiton. Donc c'est sûr que ces gènes dinantais ont influencé sur sa construction de cet instrument.
Il s'installe à Paris, forcément, à un moment.
Oui, mais
oui,
il va d'abord aller à Bruxelles. Mm-hmm. Hein, parce qu'il va quitter Dinan assez rapidement. Il avait un an lorsque son père devient en fait le fournisseur des musiques militaires hollandaises.
Un facteur d'instruments.
C'est ça, oui. Et donc, c'était plus facile d'être à Bruxelles et ça ouvrait bien sûr plus de portes pour son père. Mais son père va l'initier à la facture instrumentale dès son plus jeune âge et il va déborder d'idées. Il a plusieurs idées à la seconde, je pense, à Adolphe Sax. C'est vraiment un génie musical qui va nous donner, il a influencé le monde musical entier, dans le monde entier.
Mmh.
C'est vraiment incroyable. Un petit Dinantais, non, enfin, c'est pas un petit Dinantais, c'est un grand Dinantais.
Un grand monsieur pour une grande histoire, forcément.
Oui, voilà.
Vous l'avez dit, hein, passage par Bruxelles, il part à Paris, il va mourir à Paris. Ses origines dinantaises, c'était important. Elles étaient importantes à ses yeux.
Il est revenu à Dinan plusieurs fois.
Oui, parce qu'il est revenu à Dinan plusieurs fois. D'ailleurs, il est tombé dans la Meuse vers l'âge de 3 ans. On l'a ramassé de justesse à Dinan. Donc, et il est revenu notamment lorsqu'il était à Paris et qu'il y avait des troubles à Paris pendant les changements de régime avec Bonaparte. Et il est venu placer ses enfants dans la famille à Dinan. Et puis, il va revenir en Belgique plusieurs fois. Il va revenir dans la famille à Dinan, mais il viendra aussi au Conservatoire de Bruxelles présenter plus tard ses instruments, puisqu'il avait d'excellentes relations avec le directeur du Conservatoire Fétis, Conservatoire de Bruxelles, où il a lui-même été étudiant et brillant clarinettiste.
Oui, c'est ça. Il a démarré avec la clarinette.
Oui, c'est ça.
C'était son instrument de prédilection lorsqu'il était jeune.
Et on va revenir sur justement cette génialissime invention qui fait la fierté de la Belgique. Quand et pourquoi il invente le saxophone ?
Alors, la période d'invention se situe entre 1840 et 1843. Mmh. Et Adolphe Sax a l'idée qu'il manque un instrument avant qui ait assez de puissance comme les cuivres et assez de finesse comme les bois. Mmh. Et donc, ça, c'est son idée de base. C'est pourquoi il va travailler, mais il va être un des premiers à réellement travailler avec des lois acoustiques qu'on commence à découvrir, bien sûr, au 19e siècle. C'est un siècle d'industrialisation. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup de découvertes acoustiques aussi dont Adolphe Sax va se servir pour construire un instrument qui est fondamentalement différent de la clarinette. Parce qu'on pourrait dire, si vous voyez la clarinette basse, et la clarinette basse, c'est en fait son invention qui est aussi en forme de pipe. Mm-hmm. Et il va prendre le premier brevet qu'il va prendre, c'est en 1843, la clarinette basse. Il va concevoir le saxophone entre 1840 et 43 et le présenter à une exposition universelle à Bruxelles.
Et parce qu'il se fait lyncher aussi par la concurrence, pas mal de fois, notamment avec tous ces brevets qu'il dépose, les concurrents ne le voient pas d'un bon œil, en tout cas.
Oui, mais justement, le saxophone est un brevet qu'il a déposé très tard. Il l'a déposé qu'en 1846, 6 ans après l'invention, en disant, à ce moment-là, il était déjà arrivé à Paris, en disant à tous ses concurrents, si vous dites que le saxophone, c'est une copie et que ça existait déjà, je vous donne 3 ans pour faire un saxophone. Et donc, ce qui ne s'est pas passé, naturellement.
Oui.
Et lui, en 1846, a déposé son brevet.
Quel lieu, aujourd'hui, le touriste peut-il visiter ou voir en rapport avec cet inventeur d'exception ?
À Dinan, nous avons, depuis 30 ans, avec l'Association internationale Adolphe Sax, dont vous avez parlé, nous avons développé non seulement des manifestations de haute voltige, musicalement de haute voltige pour le saxophone, mais aussi toute une série de décorations dans la ville. Si vous arrivez à la gare du Dinan, vous passez le pont Charles de Gaulle et vous avez une vingtaine de saxophones géants qui vous accueillent.
Mmh. Aux couleurs européennes, non ?
Oui,
ouais, c'est ça.
Oui, ça a été fait en 2010 parce que la Belgique était présidente de l'Europe à ce moment-là. Et donc, on avait fait des saxophones géants avec les 27 pays européens.
C'est ça. Oui. Mm-hmm. Et donc, les saxophones, on passe le pont. Et
puis, tout de suite à gauche, on a la rue Sax.
Tout de suite à gauche. GPS ici.
On s'est tué.
C'est deux villes.
Il y a la statue de Charles de Gaulle. Il y a ce pont, vous en parlez. Et puis, cette association internationale qui lui est dédiée aujourd'hui à Dinan. Quel est le but de cette association ?
Alors, le but de l'association, c'est parti en 1994 au 100e anniversaire de la mort d'Adolphe Sax. Mmh. On s'est dit, il faut faire quelque chose à Dinan et il faut mettre le saxophone et les inventions de Sax de la meilleure manière possible en valeur pour la Belgique, mais aussi pour le monde entier.
D'accord.
Et c'est comme ça que nous avons créé un concours international.
C'est un peu comme le Reine Elisabeth, mais
c'est ce qu'on dit de nous.
Oui,
c'est ce qu'on dit de nous. Oui. Mmh. Mais en toute humilité, oui, c'est le concours de saxophone qui est le plus fréquenté dans le monde.
Et quels pays sont les plus représentés, ceux qui
Alors les plus représentés, j'en viens. J'étais la semaine passée au Japon, justement, aussi pour l'exposition universelle, où j'ai été donné 2 concerts avec des anciens lauréats de notre concours. Mmh. Justement, le Japon a toujours été l'avion le plus complet qui venait à Dinan. À chaque concours, nous avons environ 300 candidats.
Ah oui, quand même.
Qui viennent de 40 pays au dernier concours, en 23. Et nous avons une sélection vidéo qui nous amène une centaine de candidats à Dinan, que alors on écoute en 3 tours. Mmh. Et il y a toujours eu des lauréats japonais. Donc on est à la 8e édition. Dans chaque palmarès, on a eu des lauréats japonais. Et on a eu une fois un premier lauréat japonais. Et la semaine dernière, quand j'étais au Japon pour l'exposition, j'ai dirigé un ensemble de saxophones japonais et j'ai accompagné une soliste japonaise qui est lauréate de notre concours.
Voilà, vous l'avez dit hein, aussi, ce concours, le dernier en date, c'était en 2023, concours qui est organisé tous les 4 ans.
Tous les 4 ans, oui.
Le prochain, c'est 2027.
Voilà.
Il y a déjà des inscriptions ?
Non, mais il y a déjà des demandes de renseignements.
D'accord.
Je peux vous assurer que c'est vraiment très, très couru.
Alors, dans les lieux qui sont dédiés à Saxe, à Dinan, on n'a pas encore parlé, Alain, de la maison. La maison de Monsieur Saxe, ça c'est quand même un lieu très emblématique à Dinan, en rapport avec Adolphe Saxe. Alors, parlez-nous de cette maison. Elle a été rénovée, en plus, il n'y a pas très longtemps.
Elle a été rénovée. Il faut savoir qu'à la guerre 14-18, malheureusement, le bâtiment a explosé.
Ouais.
Et donc, on a reconstruit sur l'endroit, le lieu. Mmh. Et la maison de M. Saxe se visite gratuitement tous les jours de 8h du matin à 21h, 22h l'été.
Extra.
Oui, et donc entrée libre. Et c'est en fait un endroit très ludique où on peut découvrir les inventions de M. Saxe. Et on a aussi un petit film qui explique la fabrication d'un saxophone.
Ouais.
Oui. Et puis, vous avez donc les évocations des combats d'Adolphe Saxe. Parce qu'Adolphe Saxe, lorsqu'il était à Paris, on en parlait tout à l'heure, vous vous rendez bien compte que c'était, à l'époque, c'était un étranger, c'était le Belge, on l'a toujours appelé
le Belge. Le Belge qui débarquait à Paris, et c'était pas simple.
Et qui prenait le travail des Français.
Des Français, ouais.
Puisqu'on l'a invité, le général de Rumigny, en 1844-45, l'a invité à réformer toutes les musiques militaires françaises. Et ça, c'est peut-être la plus grande victoire de Saxe quand il est arrivé à Paris, c'est d'avoir pu imposer, enfin, on lui a demandé de réformer, il y a eu un concours
qu'il a remporté
avec une audition devant 20 000 personnes au Champ de Mars, près de la Tour Eiffel actuellement, et toutes les musiques militaires françaises ont été équipées de ces instruments, et plus tard, dans le monde, toutes les musiques militaires et tous les orchestres d'harmonie et de fanfare
voulait la touche Adolphe Saxe.
Oui, mais ils l'ont. Ouais. Ça n'est pas changé depuis le modèle qu'il a déposé. Donc que vous ayez au Japon, en Chine ou...
Ou Dieu sait où.
Oui. Vous avez le modèle Adolphe Saxe. Donc comme je disais, il n'a pas que inventé le saxophone.
Il a marqué de son empreinte
l'histoire. Tout le monde des instruments avant.
Alors Walid, vous avez dit en début d'émission, en présentant notre invité Alain, qu'il était aussi saxophoniste et compositeur. Et je propose justement qu'on écoute un extrait. Alors c'est un morceau qui s'appelle « Sax in the City ».
C'est beau. Ah, c'est beau. Je me vois comme ça.
C'est vous qui jouez, là.
Marcher
non,
le long
c'est
des
mon ancien orchestre de la Force Aérienne.
C'est vrai que, pour ceux qui n'ont pas encore mis les pieds à Dinan, je vous invite à regarder les devantures de commerce. Il n'y a pas un commerce qui n'a pas un jeu de mots avec le mot Saxe. Saxe in the City. J'imagine que c'est un clin d'œil à la série.
Tout à fait.
Oui.
Mais c'est aussi parce que lorsqu'on organise, on n'organise pas que le concours international, on organise une journée des brass bands, une journée des harmonies.
Ouais.
On a les dimanches de M. Saxe pendant juillet et août.
Mm-hmm.
On a un concours pour jeunes solistes. Et on organise aussi la fête de la musique le week-end prochain.
Voilà, du 27 au 29 juin. Ce sera donc Dinan Fête la musique du 27 au 29. C'est 3 jours de concerts gratuits dans toute la ville de Dinan. Il y aura des ateliers pour les enfants. Bref, c'est un week-end musical et festif pour toute la famille. Et Saxe in the City, c'est aussi le nom d'une brochure, enfin d'un parcours.
Voilà, d'un parcours dinantais, oui.
Voilà, qui est adressé à tout le monde. Expliquez-nous.
Oui. Et il va de la maison Saxe. Il y a aussi la maison de la pataphonie, on va peut-être en parler tout à l'heure.
Oui.
Où il y a la clepsydre, c'est un saxophone en verre dans la cour de l'hôtel de ville. Il y a le tour de Monsieur Saxe, qui est un kiosque près du centre culturel. Mm-hmm. Donc, toutes ces activités-là. Et entre la maison de la pataphonie et la maison de M. Saxe, il y a les anamorphoses, c'est-à-dire des représentations exagérées de petites pièces de l'instrument avec toute la famille des saxophones qui est évoquée, puisque la famille Adolphe Saxe a inventé 7 saxophones dans sa famille. Il a inventé une famille, en fait.
Ouais. Ouais. Donc, Saxe in the City, donc, je rappelle quand même que c'est un plan disponible à la Maison du Tourisme, qui est donc adressé aux touristes, et ils peuvent marcher donc, dans la ville, sur les pas.
Sur les pas d'Adolphe Saxe. Oui. Il y a vraiment des pas entre la Maison de la Pataphonie et la Maison de Monsieur Saxe.
Alors, la Maison de la Pataphonie, vous en parlez, c'est un autre lieu qui est dédié au son, à la musique, à Dinan. C'est un lieu que vous connaissez bien, forcément. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un lieu magnifique où il faut venir avec ses enfants.
Mmh. Ah.
Oui, c'est vraiment un lieu ludique où on reprend les instruments de tous les jours, de la vie quotidienne, pour en faire de la musique. Où on se rend compte que, bon, construire un saxophone, c'est très compliqué,
oui.
Mais tout le monde est à la portée de pouvoir faire un petit instrument avec, je vois, une bouteille de vide, une bouteille en plastique.
J'ai une bouteille d'eau devant moi.
Moi, je peux vous faire un peu de flûte avec, si vous voulez. Pas tout de suite, il faut que je me chauffe un peu.
Ah.
Là aussi, voyage insolite au pays des sons, cette maison de la Patafonie. On vous invite à y aller forcément et on peut trouver toutes les informations.
www.patafonie.be et pour tous les parcours sax dans la ville de Dinan, on vous renvoie bien évidemment sur le site de la maison du tourisme du pays dinantais, Explore Meuse, dans www.exploremeuse.be.
On va quitter le Namurois pour la province de Luxembourg un court instant. On va s'arrêter à Gouvy s'il vous plaît, c'est tout de suite.
L'agence Tourisme sur la première.
Ah, on aime la musique et on vous le prouve en cette journée un peu particulière. C'est donc à Gouvy qu'est lancé pour la première fois en 1978 un festival de blues et de jazz qui existe aujourd'hui encore. Et au départ, ce festival était plutôt orienté vers le blues, voire la pop, mais c'est le jazz qui l'a remporté. Jazz pour lequel vous avez une affinité, vous ?
Moi, j'aime écouter le jazz, absolument. Et de toute façon, en tant que saxophoniste, mmh. Que serait le jazz sans le saxophone et que serait le jazz sans le...
Oui, c'est ça, l'un sans l'autre.
Oui, voilà.
comme ça. Oui.
Parce que, bon, moi j'étais professeur de saxophone classique au conservatoire, mais il faut dire que ce qui a fait connaître le saxophone, c'est le jazz. Mmh. Donc merci beaucoup. Et d'ailleurs, à Dinan, nous avons aussi un festival de jazz qui marche très très bien, qui commence le 25 juillet,
oui.
pendant le congrès mondial du saxophone qui a lieu en Chine. Malheureusement, moi je ne pourrais pas participer.
Et donc juste avant le festival de jazz de Gouvy, qui lui a lieu le premier week-end du mois d'août, 1er, 2
voilà.
et 3 août.
Avec, voilà. avec des grands noms d'ailleurs aussi.
Tous les grands
du
noms du jazz sont venus à Gouvy,
Madeleine,
hein, c'est incroyable.
Ça peut ouais. paraître assez inouï, c'est un lieu qui est tout de même à l'écart, voire très à l'écart des grandes villes
ah
et
oui,
des grandes
scènes. Ah oui, c'est la campagne, hein, je peux vous dire, pour y avoir été, c'est dans les champs, c'est un peu à l'écart du hameau de Sterpigny.
Tout le monde connaît et tous les grands amateurs de musique et de jazz et tous les grands saxophonistes peuvent pointer sur la carte Dinan et Gouvy en disant c'est de place to be. Vous avez des références en termes de jazz, justement, ou de saxophoniste?
Stan Getz ou Charlie Parker sont des... Stan Getz, c'est une sonorité formidable. Hein. Mm-hmm. Et puis, il y a le fameux Sidney Bechet, qui a fait connaître le saxophone soprano, parce que tout le monde croit que c'est une clarinette. Mais en fait, il jouait d'abord de la clarinette aussi, comme un Adolphe Sax, oui. Sidney Bechet. Et puis, il s'est mis au saxophone. Et à la Nouvelle-Orléans, il a remplacé le cornet. Il y avait déjà des petites formations de 3, 4, 5 musiciens. Et c'était le cornet qui jouait principalement la mélodie. Et grâce à quelqu'un comme Sidney Bechet, la mélodie a été confiée au saxophone. Et puis le saxophone alto s'est introduit. Et puis le ténor. Le ténor est l'instrument, pour moi, roi du jazz. C'est une sonorité tellement chaude, le saxophone ténor. Ça se rapproche vraiment de la voix humaine.
Ouais, et d'ailleurs, vous n'êtes pas venu les mains vides. Hein. Vous avez un saxophone pas très loin.
Donc il est venu avec son CD pour l'écouter et avec un saxophone.
Moi, je n'hésite pas au plaisir à un moment donné. Vous savez ce qu'on peut faire ? Je vous pose des questions. Vous ne répondez qu'en musique. Est-ce que le saxophone, c'est votre instrument de prédilection? Comment est-ce que vous êtes tombé amoureux de ce saxophone?
Ça, c'est la première pièce que j'ai entendue sur un saxophone.
Et c'est comme ça que vous êtes tombé
amoureux. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux.
C'est une invitation à la romance, moi, je trouve.
Oui, c'est une valse vanité.
Ah, voilà.
Oui.
Le plaisir est là, dans les oreilles. Comment est-ce que vous pourriez décrire Adolphe Sax en musique ?
C'est la ténacité.
Vous savez que j'ai la chair de poule, c'est fou hein, quand même. De laisser parler un instrument à la place des mots. Et ouais. Voilà, il y a des mots qui sortent et chacun peut avoir sa définition de ce qu'était cet illustre homme, Adolphe Sax. On rappelle d'ailleurs, moi je peux vous applaudir. Hein.
Alors là,
si on ne tombe pas amoureux de cet instrument et de ce que ça procure comme émotion, comme sensation, je ne sais pas vous qui nous écoutez, mais vous savez dès lors ce qu'il vous reste à faire. Hein, rendez-vous du côté de Dinan. On rappelle les dates d'ailleurs.
Alors à Dinan, ce sera donc jusqu'au mois de juillet. Là, je n'ai plus les dates en tête.
C'est du 25 au 30 juillet.
Voilà, oui. Du 25 au 30 juillet à Dinan, Festival de Jazz. Et à Gouvy, les 1er, 2 et 3 août.
Restez avec nous, parce que les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont justement mis à l'honneur dans l'agence Tourisme, avec notamment celle qu'on écoute tout de suite. Voici Juliette Grégoire. Train vers Bruxelles, c'était Juliette Grégoire qui nous revient et qui vient de sortir son premier single en français, Train vers Bruxelles, un morceau qu'on adore. Musique encore et toujours, et c'est en province de Liège que ça se passe. On y court.
L'agence Tourisme sur la première.
On a pu le vivre depuis quelques minutes. Non, la musique, c'est un univers fascinant grâce notamment à tous ces instruments qui la font naître et surgir. Et c'est précisément un facteur d'instruments de musique que vous avez rencontré, Marianne.
Oui, et pas n'importe quel instrument, c'est celui-ci. Écoutez. Et oui.
4 francs les gaufres, 4 francs les gaufres.
Ou alors un petit tour de manège.
Un petit tour de manège, qui aura la flèche? Marianne peut-être.
Ah oui, ça m'a fait rêver quand j'étais enfant, effectivement, c'est vrai. Eh bien, ce que vous entendez, c'est la musique d'un orgue de Barbarie. C'est un instrument de musique mécanique, c'est un instrument à vent, comme le saxophone.
Tout à fait.
Oui, et ce type d'instrument populaire, il est plus souvent joué à l'extérieur. C'est vrai, Walid était très en vogue à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est un instrument qui, de nos jours, fait le bonheur, entre autres, des collectionneurs et des facteurs d'instruments de musique mécanique. Et quand même, il faut le dire, ils ne sont pas très nombreux, comme on peut l'imaginer.
Mais vous en avez rencontré quand même un pour nous.
Eh bien oui, à Stavelot, voilà 20 ans que Benoît Polis y a ouvert son atelier de création et de restauration d'orgues de Barbarie. Mais pas que, puisque tous les instruments de musique mécanique l'intéressent. Alors le nom de cet atelier, lui, s'appelle Benoît Polis. Vous y verrez le jeu de mots. Le nom de son atelier, c'est polyphonique.
Ah voilà. Oui, bah
un atelier où se croisent instruments neufs, instruments en cours de création et instruments anciens, outils de menuiserie, d'ébénisterie, du travail du cuir et j'en passe, le tout dans un joyeux désordre que j'ai découvert pour vous.
Voilà, il y a une partie des instruments qui sont ici, qui sont en convalescence. D'ailleurs,
j'adore le mot.
En convalescence, puis on espère leur rendre vie. Mais on a quand même quelques instruments à nous, qu'on a, par les hasards des rencontres, qu'on a acquis à l'atelier. Où, et ça, c'est le danger du métier où pour lequel on a une certaine affection, on va dire comme ça, et qu'on n'arrive pas à vendre. Et donc, du coup...
Alors, je suis votre regard. Je suis votre regard. Et c'est vrai que votre regard se porte vers un instrument qui ressemble a priori plutôt à une armoire.
Effectivement. Esthétiquement, je suis d'accord avec vous, c'est probablement pas le plus esthétique des instruments de l'atelier.
Alors, expliquez-moi ce que c'est.
Cet instrument-ci, alors hélas, j'aurais bien voulu aussi pouvoir le garder celui-là, mais son propriétaire traîne à le récupérer et ce n'est pas très grave à nos yeux. C'est un instrument qui a été fabriqué aux États-Unis aux alentours de 1920 et c'est un instrument qui était destiné au café, au bar. C'est un piano mécanique, mais qui accompagne un violon lui-même aussi mécanique et qui fonctionne avec un monnayeur. Donc on mettait une pièce de monnaie dans l'instrument et l'instrument mettait un peu de musique dans le café ou le restaurant. Il faut se remettre évidemment dans une époque où le seul moyen d'écouter la musique était le phonographe. Et le phonographe n'étant pas encore amplifié électriquement, la sonorité du phonographe était assez limitée. C'est-à-dire que d'abord, le son était assez nasillard et en plus, il ne permettait pas de sonoriser une pièce de grande dimension. Donc, les instruments de musique mécanique étaient vraiment, vraiment un business. Et pourquoi on utilisait ces instruments? Parce qu'ils permettaient d'avoir un volume sonore suffisamment grand. Et bien que le but était de jouer de la musique, le but est surtout d'attirer la clientèle. On allait au bar et plutôt que de juste rester pour boire son café, comme il y avait de la musique, on restait un peu plus longtemps. Et puis en plus, il y avait un monnayeur, ce qui permettait de rentabiliser l'instrument en mettant à chaque fois une pièce pour avoir droit à un morceau de musique.
Alors, j'ai très envie qu'on l'ouvre, instrument. Donc cet instrument qui ressemble à une armoire, il y a donc une partie vitrée. Hop, voilà, on l'ouvre effectivement.
Voilà.
Et on découvre derrière... Bah oui, un violon et ses touches de piano au fond.
Voilà, en fait, à l'arrière, on voit, il n'y a pas de clavier puisque l'instrument est un instrument qui va jouer sans l'aide d'un musicien. Ouais. À l'arrière, par contre, on y retrouve, comme dans un piano droit, des marteaux de piano et des cordes de piano. Et à l'avant, on y trouve un violon qui est un peu couché à plat et qui est maintenu...
Et aussi les deux portes du bas. Hein. Donc ça, c'est la partie supérieure de cette armoire que vous venez de décrire. Dans la partie basse de ce meuble, il y a aussi deux autres portes que l'on ouvre. Et là, c'est la partie cachée du mécanisme.
C'est ça. Normalement, évidemment, dans le café ou dans l'endroit où il était, le public n'a pas accès à la partie inférieure de l'instrument. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette partie inférieure ? Des mécanismes et entre autres, j'ai envie de dire, le système de lecture ou le musicien caché. Et donc, le musicien caché dans le cadre de cet instrument, c'est un rouleau de papier, vraiment un rouleau de papier gris, sur lequel sont perforés des trous. Et à chaque fois, un trou va correspondre à une des différentes options de la machine, c'est-à-dire un trou va correspondre à une note du violon, un autre trou va correspondre à une note de piano. Et alors, il y a énormément de petites subtilités. Il y a par exemple le vibrato qui est aussi contrôlé, il y a l'intensité, la vitesse. Et tout ça est à nouveau codé sur ce rouleau de papier. Ce rouleau de papier, je crois, sur cet instrument, je crois, il y a une dizaine de morceaux.
Ah oui.
Et donc, quand il arrive au bout du rouleau, de manière automatique, le système va rebobiner le papier pour se remettre au numéro A et puis recommencer le cycle.
Alors, on va évidemment le faire fonctionner, cet instrument. J'ai hâte de l'entendre.
Il y a au bout du rouleau, et être au bout du rouleau, mais de manière plus poétique.
Voilà.
Écoutez-moi ça. Tous les samedis entre 13h et 14h, l'agence tourisme sur la première avec Marianne Perrieux et votre serviteur. C'est vrai, c'est un petit peu le jukebox des années 20, hein, en somme, hein, cet angle de barbarie.
Complètement. Et ce qui est magique, c'est qu'en réalité, il ne faut pas être musicien pour jouer cet instrument.
Non.
Il suffit de mettre un sou,
ouais.
Ça démarre, ou alors de tourner une manivelle.
C'est fascinant.
Ça m'a porté.
C'est fascinant. Qu'est-ce que ces instruments, justement, vous inspirent quand vous les écoutez et surtout quand on entend et on voit des personnes aussi passionnées, passionnantes qui leur redonnent vie?
Oui, moi, ça m'inspire mon enfance, bien sûr, parce que je l'ai entendu sur les foires aussi.
Ah ben oui, voilà.
Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les musiciens qui s'occupent justement de remettre comme ça des instruments en état. Et puis, bon, vous savez, ça s'appelait orgue de barbarie au départ parce que c'était pas un orgue d'église. Mm-hmm. Et les gens qui jouaient cet instrument, qui n'est pas difficile à jouer, puisque comme vous dites, il suffit de tourner, ne parlaient pas bien le français au 19e siècle. Et c'est une appellation qui est typiquement française, donc de barbarie.
Mais pour la petite histoire, barbare, du mot barbarie, ouais. C'est les Grecs anciens qui appelaient ça, les barbares, ceux qui ne parlaient pas la langue grecque, en fait.
C'est voilà,
simplement
pour
ça. Ouais. Et donc, c'est ce que les Français ont fait aussi. Ils ont vu que ces gens-là, qui étaient souvent des gens du voyage, parce que l'avantage de cet instrument aussi,
c'est qu'il a voyagé.
Voilà, c'est qu'il peut, il est portable, on peut le déplacer.
Absolument. Et ce qui est fascinant, en tout cas, je reviens au reportage, c'est que derrière chaque instrument, eh bien, se cache une histoire.
Mmh.
Et chacune de ces histoires est unique, elle se niche dans les détails de l'instrument ou dans le choix des arts qui sont joués ou dans les surprises de la restauration.
Celui-ci, c'est à nouveau un instrument destiné pour être joué dans les rues. Et alors, sur sa façade, on voit que là, les tuyaux sont...
Ils sont apparents. Ouais.
Voilà, les tuyaux sont apparents et ils sont faits en bambou. C'est donc... d'ailleurs, le nom de l'instrument, c'est harmonipan. Alors, une flûte de pan, je ne suis pas sûr que ça sonne réellement comme une flûte de pan, mais enfin, voilà, dans l'idée, en tous les cas, du nom, oui. Et nous, ce qu'on aime bien quand on restaure, c'est de trouver des cylindres d'origine qui n'ont pas été modifiés ou renotés dans les années 50 ou parfois même 60, mais d'avoir vraiment l'instrument dans son origine, parce que du coup, ça nous permet d'avoir un peu le hit parade d'une époque donnée, puisque l'instrument, imaginons, a arrêté de jouer en 1910. Eh bien, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on écoutait en 1910? Qu'est-ce qui attirait les gens pour donner une pièce aux joueurs d'orgue de barbarie en 1910? Eh bien, c'est les morceaux qu'il y a sur l'orgue, donc ça, c'est super intéressant.
Et donc, celui-ci, par exemple, on connaît donc le nombre de morceaux qu'il pouvait proposer au public?
La plupart tournent, c'est souvent 8 morceaux, parfois 10, mais en l'occurrence ici c'est 8 morceaux sur l'orgue. Et alors lui, ce qui est curieux, c'est qu'on voit que certains morceaux ont été renotés. Donc on voit qu'il y a une partie des morceaux qui ont été changés et d'autres qui sont des morceaux, toujours les morceaux d'origine.
Alors il y a eu un boulot de dingue sur cette orgue, parce que vous m'avez montré la photo de l'état dans lequel vous l'avez trouvé ou acheté, je ne sais plus, mais rien à voir, donc des heures et des heures et des heures de travail dessus.
Oui, ici, ça, c'était vraiment un challenge, cet orgue, parce que, effectivement, l'orgue avait été, pour une raison qu'on ignore, avait été repeint avec, je suis désolé de le dire, mais une immonde peinture blanche qui recouvrait l'ensemble de la marqueterie. Donc, l'orgue était tout blanc, mais même avec le même pinceau, on n'avait pas les tuyaux. Enfin, c'était une catastrophe. Il y a une partie des tuyaux en dessous de l'orgue qui était manquant, ainsi qu'une partie du mécanisme. Donc, on a vraiment acheté l'instrument muet et, en plus, on pourrait dire... Regardable parce qu'il ressemblait vraiment à rien. Et puis ça, on a acheté effectivement cet instrument, évidemment à prix très 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 bon marché parce que c'était vraiment une épave. On avait quand même en dessous de cette peinture repéré la marque de l'instrument et vu qu'il y avait encore une partie de la marqueterie en place, donc on s'est dit tiens, il y a probablement quelque chose d'intéressant là-dessous. Et puis il y a un client qui a fait, qui a accepté le défi. Alors sur le coup, c'était plutôt un défi financier, c'est-à-dire de dire bah allez, allons-y, on le restaure. On avait fait une première estimation du coût, mais on a même hélas un peu dépassé le budget. Mais voilà, effectivement, ça en vaut la peine. Je suis très content d'ailleurs que vous ayez remarqué cet instrument parmi les instruments qu'on a restaurés, parce qu'effectivement, lui, on n'a aucune idée de voir d'où on est parti pour en arriver à ça.
Oui, il est vraiment magnifique. Alors, on va quand même le faire jouer, hein? Donc, vous vous mettez derrière, c'est tout simple. Donc, il y a une manivelle sur la partie arrière de l'instrument. Cet instrument, donc, est posé sur le sol. Il est relativement bas. Quelle est sa hauteur? Je dirais quoi, 60,
oui,
70
monsieur, c'est ça, 60 cm. Mais la plupart de ces instruments, d'ailleurs, on le voit, ils n'ont pas des poignées, mais ils ont une sorte de poignée, mais en fait, dans laquelle on glissait une sangle. En fait, ces orgues sont portés un peu comme un sac de facteur. Ils sont joués debout, normalement, effectivement, ils ne sont pas posés sur le sol. Ils se jouent debout et ils sont portés. Oui.
Ils sont portés, hein, oui, voilà, c'est ça. Alors, on va stir.
Ok, on est parti.
Qui veut des escargots, qui?
Très inspiré aujourd'hui, ah ouais.
Moi, dès que j'entends ça, je parle comme dans les années 20, vous savez, j'allais boucher comme ça un peu.
Là, on entend hein, le petit côté
de pont. C'est magnifique. C'est très enfantin. Bon. Notre ami nous disait, c'est à un moment donné assez fabuleux de se souvenir comme ça et de retomber en enfance. Il y a des
c'est une sonorité qu'on ne peut pas oublier.
On a clairement.
Comme le saxophone.
Ouais,
Et ce qui est intéressant dans son métier, c'est qu'il a plein de facettes. On l'a compris que c'est vraiment effectivement tout un univers qu'on aime à redécouvrir. Et qui mérite aussi d'être sorti de Londres.
Et c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'agence Tourisme. Vous invitez à découvrir des lieux, des artisans, des villes, des villages, des musées. Et vous savez quoi? On va justement au musée, direction Bruxelles à présent.
La première, l'agence Tourisme, Marianne Périlleux et Walid.
Notre voyage musical se poursuit ce samedi dans l'agence Tourisme en gagnant et en regagnant le musée des instruments de musique, en abrégé le MIM, installé dans le magnifique bâtiment de l'ancien magasin Old England. Nous sommes dans le quartier du Mont des Arts à Bruxelles et pour nous parler de ce musée, c'est Stéphane Collin que nous avons en ligne. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Comment allez-vous en ce samedi?
Mais très bien, merci.
Alors vous êtes attaché pédagogique dans ce très très beau musée, un incontournable dans notre capitale. On va commencer par le B.A.B.A. tiens, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le musée, qu'est-ce qu'on trouve au MIM? Quelle histoire nous raconte-t-il?
Bah écoutez, au MIM on trouve une collection d'instruments de musique qui est parmi peut-être les plus éclectiques et les plus riches au monde certainement, avec des instruments de toutes les époques, de tous les lieux du monde, de toutes les traditions.
Il y a combien d'instruments en tout?
Alors, en tout, il y a environ 10 000 instruments et accessoires. Mmh. Tous ne sont pas visibles, évidemment. Il y a une partie seulement qui est exposée dans les salles. C'est autour de 1200 instruments. Le reste est en réserve, mais la collection complète, c'est environ 10 000 instruments.
Voilà, 1200 instruments qui sont exposés, vous l'avez dit, sur les quatre étages du musée. Faites-nous rêver, tiens, le plus vieil instrument ou le plus incongru?
Alors, le plus vieux, c'est certainement une phalange sifflante du paléolithique supérieur, donc une phalange de renne, je pense, percée, qui est en fait un sifflet préhistorique.
Mmh. Et en même temps, c'est insolite et incongru. Là, on a les deux, carrément. Il est exceptionnel, elle est quand même exceptionnelle, cette collection que vous avez. C'est une des plus riches au monde, on est d'accord?
Oui, surtout par sa variété.
Mmh.
Oui.
Elle représente quoi? Toutes les époques?
Oui, en tous les cas, aussi loin qu'on puisse remonter, parce que bon, il faut savoir que des instruments de musique complets, antérieurs au XVIe ou même au XVIIe siècle, c'est plutôt rarissime. Hein. Donc, je dirais que ça commence essentiellement pour les instruments européens, en tous les cas, fin XVIe, début XVIIe, jusqu'aux instruments les plus modernes.
Voilà, toutes les cultures, tous les continents représentés musicalement parlant. Stéphane, qui vient au MIM, tiens, des musiciens, des mélomanes, quel public vous souhaitez toucher? J'imagine tous les publics, mais qui vient en particulier chez vous?
Oui, alors je dirais, par rapport au service éducatif, c'est quand même essentiellement le scolaire pendant l'année, donc l'enseignement primaire, maternel, les écoles de musique, etc. Mais voilà, sinon on a aussi beaucoup de touristes à la belle saison. Et puis les Bruxellois sont des visiteurs assidus de notre musée.
Ouais, c'est plus de 115 000 visiteurs par an, hein, l'air de rien.
Oui, 120, 125 000, ça varie un peu.
Ouais.
Oui.
Ah ouais, c'est du beau.
Alors Stéphane, demain le MIM va fêter les 25 ans de sa réouverture, enfin même plutôt de son déménagement, dans ce très beau bâtiment Old England, donc dans le quartier du Mont des Arts. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée?
Alors, il va se passer beaucoup de choses.
Ah,
d'abord, l'entrée et puis toutes les activités qui seront proposées seront gratuites. Mmh. Il y aura des concerts pour les familles, notamment pour les petits-enfants à partir de 5 ans avec le Zen Quartet. Il y aura de la musique de film avec un quatuor de clarinette, l'ensemble Clarnival. Il y aura du rock alternatif avec le groupe Bex. Mais alors, en plus de ces concerts donc, qui sont gratuits, il y aura des visites guidées, des ateliers, des visites exceptionnelles des réserves du musée. Donc ça, c'est gratuit. Il faudra simplement venir au musée et s'inscrire le jour même. Mais il y aura aussi de la musique en continu dans les salles, essentiellement par des musiciens amateurs, des musiques folkloriques, des groupes d'enfants. Il y aura l'orchestre à cordes de l'Académie de Bruxelles. Il y aura des étudiants, l'orchestre à Côte de Louvain-la-Neuve qui va venir jouer. Donc plein de choses. Je pense qu'une famille qui viendrait le matin à l'ouverture à 10h en a pour toute la journée.
Il a bien vendu sa journée.
Ah ben là,
il a vraiment donné envie d'y aller.
Mais moi j'y étais déjà, donc je note dans mon agenda, vous le notez vous aussi. On rappelle que l'accès est gratuit. Hein,
merci Stéphane, oui tout à fait. Donc c'est donc demain, dimanche 22 juin, accès gratuit toute la journée de 10 à 17h. Et vous l'avez dit Stéphane, les réserves du musée seront exceptionnellement donc accessibles sous réservation. Plein de musiciens, plein de choses. Toutes les infos sur www.mime.be.
Merci à vous Stéphane.
Eh bien, avec plaisir.
À très vite. Tiens, on va déjà se dire au revoir. On va déjà se dire au revoir, mais avant de se dire au revoir, c'est une tradition.
En musique
oui, en plus. j'avais d'abord envie de vous poser une question. Tiens, quel est le mot nous donnerait envie de partir sur les traces d'Adolphe Sax? Si vous deviez donner envie aux auditeurs de la première à la main de partir sur les traces d'Adolphe Sax, quel serait le mot qui serait le déclencheur?
Eh bien, moi, je dirais imagination.
Imagination. Et vous?
Moi, génie.
Génie, ben voilà, imagination, génie. Et même en musique, tiens, qu'est-ce que ça donnerait, le génie et l'imagination?
Alors, on demande à Alain de reprendre son saxophone qu'il avait posé sur
histoire de clôturer l'émission.
Enfin, la table.
N'hésitez pas d'ailleurs à écouter les épisodes de l'Agence Tourisme en podcast sur Ovio et de consulter l'article sur le site web de la première ou via l'application RTB Factu. Merci à nos invités du jour. Merci à vous Marianne, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis à 14h, vous avez rendez-vous avec Cynthia Isarelli pour nous emmener dans les fins fonds de la culture, bien entendu, et puis en musique, ça donne. Merci pour ce beau cadeau que vous nous faites en ce samedi. Merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Je l'ai dit, rendez-vous avec Cynthia Isarelli dans un instant pour Kiosque, les infos de 14h. Et pour vous y emmener, c'est du belge. Voici Mondingo avec Rhythm of the Sun. Oui, la musique continue à nous envahir sur la première. À la semaine prochaine.